le dialogue de bois, c'est-à-dire le dialogue de sourds entre des langues de bois. Si on regarde notre monde, il y a devant nous un diptyque. D'un côté, la richesse apparente des communications. Les moyens de communication se multiplient, les routes, les autoroutes, les voies, les TGV, les lignes aériennes, etc. Nous avons même un ministère de la communication, nous avons de nombreux médias, nous avons une journée mondiale des moyens de communication. Nous sommes passés de cette pauvre galaxie Gutenberg où les communications se faisaient lentement, d'une manière partielle, par les ouvrages qui sortaient de la presse, qu'il fallait s'astreindre à lire. Nous sommes sortis de cette galaxie Gutenberg à un grand village. Selon McLuhan, le monde est devenu un grand village, une espèce de grand village africain, où le tam-tam s'entend d'un bout à l'autre du monde d'ailleurs, où les communications sont instantanées. Immense rassemblement produit par les grands communicateurs, nous sommes à l'ère des grands communicateurs, en URSS, les grandes communications bien entendu, dans l'Allemagne nazie, tout le monde a vu cela, mais encore aujourd'hui, des foules de plusieurs millions qui sont fanatisées et qui communiquent, ou qu'on fait communiquer. Le XXe siècle serait donc ainsi l'ère de la communication, communication de masse, communication instantanée d'un bout à l'autre de la planète, communication irrésistible, entraînante, qui finalement n'est peut-être pas autre chose qu'un vaste conditionnement pavlovien. Nous serions tous comme des chiens de Pavlov qui, au tintement de la clochette, se mettent à saliver. La langue de bois salive à la communication. Déjà Orwell, dans 1984, avait imaginé que peu à peu, on créerait une espèce de langue simplifiée, le canne-langue. On ferait coin, 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 et on arriverait peu à peu à des phrases extrêmement simples qui n'auraient qu'à répéter. On lancerait la première syllabe et le reste s'en suivrait. Et le meilleur compliment qu'on pourrait faire d'un orateur ou d'un philosophe, un savant, ce serait double plus bon canne-langue. Vous voyez qu'on aurait simplifié toutes les expressions pour n'en faire subsister qu'un nombre réduit qui permettrait d'attacher comme ça des prix Nobel, des canne-langue à des grands communicateurs. Ça, c'est un premier volet du diptyque moderne. Il y a un deuxième volet qui se voit dès que nous ouvrons les yeux dans nos villes, surtout à Paris, c'est la solitude. La solitude des personnes âgées, de plus en plus grande. La solitude de ces pauvres enfants qui sont là, à côté les uns des autres, et qu'on va lancer dans des mouvements de masse. La solitude, il paraît que dans la région de Paris, 50% des couples mariés, ne parlons pas des autres, se défont, partent chacun de son côté dans la solitude, que les enfants, bien entendu, tirés et écartelés entre ces deux solitudes, n'ont plus rien où s'accrocher, victimes donc, et à leur tour seuls. Solitude des groupes sociaux qui ne se comprennent plus, on est contre, on ne se réunit que contre, pour revendiquer ses droits, mes droits, mes droits, repli sur soi. Et puis, comme ça ne suffit pas et qu'on veut une petite annexe, il y a l'animal de compagnie, qui sera bientôt appelé le bien-aimé. Il est aimé, on l'aime, on lui prouve qu'on l'aime, dans une solitude que je suppose être affreuse. Montée des suicides, c'est effrayant. Et, comme on nous l'a montré dans les conférences précédentes, monsieur Rec, avec le New Age et la scientologie, recherche d'un lien magique, d'un lien dans la secte, d'un lien qui nous attache, qui par une espèce de transfert automatique, fait que le sentiment va se diriger sur un être dans une organisation et qu'on n'aura plus cette espèce de détresse de l'être qui ne sait pas où se fixer. Et Sartre disait, qui est à l'origine de tout cela, enfin une des origines de tout cela, la liberté c'est d'être comme quelque chose qui se balance, qui ne se fixe nulle part. Alors là, hop, on est fixé, on est attaché, c'est fini. Ça c'est un deuxième volet, c'est le volet du XXe siècle comme ère de la solitude, de la rupture, des liens naturels, des liens traditionnels, des liens des différentes communautés, grâce auxquels se faisaient des communications complexes, riches, multiples. Et c'est pourquoi il y a des dialogues de sourds maintenant. on ne s'entend plus, on ne s'écoute plus. Et ce qu'on voit dans les phénomènes sociaux d'aujourd'hui, c'est bien cela. Il y a des sortes de conversations qui, nous dit-on, durent des heures, et où à la fin, à la sortie, il n'y a pas eu plus d'échanges qu'avant, et où chacun a répété, je ne sais pas comment ils peuvent faire d'ailleurs, indéfiniment le même refrain. Voilà les signes des temps, pour employer une expression fameuse qui a fait couler beaucoup d'encre, il faut être à l'écoute des signes des temps. Soit, mais c'est pour porter un diagnostic. Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic que nous portons sur les signes des temps? Et par rapport à quoi portons-nous ce diagnostic? Si on décèle une maladie, c'est qu'on a l'idée d'une santé. Que doit être une communication saine, une communication humaine? Et comment comprendre que nous soyons devant ces deux volets, devant ce diptyque contemporain? Alors pour y voir clair, et essayer de répondre à cette question, cette tentative est bien ambitieuse, pour y voir clair, je vais commencer par des descriptions, puisque nous faisons surtout de la psychologie, et je vais partir par chronologiquement des descriptions les plus simples, c'est-à-dire prendre les communications d'abord dans la famille. Ensuite, je les prendrai dans les différents ordres sociaux. Et ensuite, nous verrons, ça sera donc mon premier point dans la famille, mon second point dans les différentes formes de la vie sociale, de la vie de la cité. Et puis mon troisième point abordera le côté psychopathologique des communications au sens de la pathologie individuelle. Dans quelle mesure cette pathologie individuelle va-t-elle nous permettre de trouver la clé de tous ces points où grippe, où accroche, où ne marche pas la communication? Ce qui nous permettra de trouver ce que doit être une vraie communication. On a commencé par se plaindre de la maladie, par essayer de voir comment on peut essayer de la faire disparaître avant de faire la physiologie, c'est-à-dire avant d'étudier la bonne santé. Et bien, on va faire un peu pareil ici. Première partie, les communications dans la famille. La famille, c'est d'abord un couple, et ensuite, si Dieu le veut, des enfants, avec le couple, bien entendu. Le couple, c'est un être moral, c'est un être, ils formant une seule chair, est-il dit dans la Genèse, mais cet être, à la différence des êtres physiques, des individus que nous sommes, est constitué de deux réalités individuelles qui restent distinctes. Ce n'est pas une fusion, une unité, c'est une union. Les êtres, il y a couple dans la mesure où les êtres sont et restent réellement différents. Une seule chair, bien sûr, c'est un seul être, mais par deux qui restent deux. Et saint Paul, qui fait un pas de plus, bien sûr, de même le Christ dans l'Évangile, mais je prends saint Paul parce que l'image est très, très éclairante, montre que l'union de l'époux et de l'épouse est à l'image de celle du Christ et de l'Église. L'Église, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie historique. Il y a une unité, bien sûr, entre l'Église, la Sainte Église, notre Mère et notre Seigneur Jésus-Christ. Et le couple, c'est une image, ça n'est pas cette unité, mais Marie, soyez comme le Christ, femme, soyez comme l'Église. Il y a donc cette image de l'union que saint Paul utilise, comme vous le savez. Qu'est-ce qui fait une union réelle? C'est évidemment la communication. L'unité ne suppose pas nécessairement une communication, mais l'union suppose une communication. Qu'est-ce que c'est? C'est avoir quelque chose en commun dans lequel on se réunit. C'est donc aller vers quelque chose qui est commun. Et c'est pourquoi toutes les tentatives modernes de vouloir réduire la communication à l'expressivité, à la créativité, parler, 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 exprimez-vous. Tout cela, c'est voué nécessairement à l'échec parce que, par principe, on ne recherche pas ce qui est commun. Il n'y a communication que dans quelque chose qui est objectivement commun. Et si les subjectivités, les individus restent ou sont invités à rester chacun en eux-mêmes, la communication est rompue dès le principe. Et c'est pourquoi le monde moderne, dans beaucoup de ses pressions, de ses manifestations, trouble la communication. En commun, pour les époux, bien, il y a au plan des sentiments quelque chose de commun, On a des admirations, des goûts communs, tout en étant différents, bien sûr. Il y a de même quelque chose de commun encore plus intime, c'est cet attrait réciproque qui fait que celle que j'aime est unique. Et de même, je le sais, moi pour elle, ces plans forment une union dans quelque chose de commun parce qu'il y a communication à un plan supérieur qui est celui des idées, qui est celui de la foi, qui est celui de ce qu'on appelle les valeurs, communication spirituelle donc, l'esprit en chacun de nous, c'est la clé de voûte, l'âme humaine est spirituelle, la communication spirituelle de même est la clé de voûte de cette union dans le couple, mais cette clé de voûte est mystérieuse car elle n'est pas donnée spontanément par la nature, nous restons deux. Et nous avons nos destinées personnelles qui demeurent. Elle n'est pas donnée par la nature, reste donc qu'elle soit donnée par la surnature, c'est-à-dire par le sacrement. Et le sacrement de mariage, qui est un sacrement permanent, qui s'actualise au jour le jour, c'est précisément ce qui donne cette union spirituelle par laquelle seuls les époux communiquent. Et c'est pourquoi, si on écarte le sacrement, c'est la fidélité, l'union devient incompréhensible. Et c'est pourquoi les existentialistes athées ont prétendu qu'il n'y avait pas de fidélité possible. Naturellement parlant, humainement parlant, elle est au-delà de nos forces. Elle nous est donnée dans ce qui est commun, c'est-à-dire cette grâce du sacrement de mariage. Et de là résulte que nous allons pouvoir nous parler, mais pour nous écouter, pour regarder nos personnes, bien sûr, mais à travers les traits singuliers de l'être que l'on regarde, on va vers quelque chose qui est au fond de son âme et qui est au fond de la mienne, et qui est cette présence du Seigneur par laquelle, précisément, nous avons l'essentiel de notre union. Aussi faut-il rejeter comme très insuffisante la conception de l'amour romantique, conception qu'on trouve par exemple dans la Nouvelle Héloïse, montons vers cette nuit d'amour, vers ce sommet, et puis après, il n'y a plus qu'à mourir parce qu'on va redescendre. Cette image matérielle du sommet, cette image physique empruntée à la nature, est inadéquate quand il s'agit de réalité spirituelle. Car dans l'ordre spirituel, souvenons-nous de cette admirable phrase de saint Grégoire le Grand, « L'âme qui monte ne s'arrête jamais, allant de commencement en commencement par des commencements perpétuels. » Il n'y a pas d'arrêt, et notre destinée personnelle ou de couple n'a pas un terme fixe comme le sommet de cette montagne, mais puisqu'elle est animée par cette grâce, elle vient de Dieu et va vers Dieu, c'est-à-dire vers cet infini dans lequel nous communiquons. Donc, amour rime avec toujours, mais beaucoup plus profondément que ne le croient les poètes. Cela, depuis le départ, les fiançailles, mariage, etc., jusqu'à, mais ça n'a pas de terme, jusqu'à l'éternité. Le couple est fait de compagnons d'éternité, selon la célèbre formule. Voilà donc le point de départ, en quelque sorte chronologique, des communications, parce que c'est parce que ce couple existe, qu'il va y avoir des enfants. Vous me direz, oh, il peut y avoir des enfants autrement. Physiquement, oui, mais humainement, c'est-à-dire, selon ce que nous devons faire d'après le plan de Dieu, je dis non. Et c'est pourquoi il ne faut pas cesser d'affirmer que la virginité, la chasteté, avant le mariage, façon à arriver au don de soi pur, est une nécessité. Elle est une nécessité, bien sûr, à ce plan psychologique. Elle l'est aussi un plan surnaturel. Les enfants, petit b, donc de ce premier point, l'Ancien Testament nous dit c'est la bénédiction des parents. Et on va voir les enfants et les enfants de ses enfants jusqu'à la énième génération. Et beaucoup d'enfants, la stérilité du monde moderne pour un ancien, c'est loin d'être une bénédiction, bien entendu. Je ne parle pas, évidemment, des stérilités qui sont des épreuves, c'est sûr. Les enfants C'est donc notre point de départ dans ce couple. Le couple a été constitué, il vit dans ce sacrement, et sa finalité externe, ses fruits, ce sont les enfants. Mais l'enfant, alors vous allez me dire, il ne parle pas, il ne communique pas. Par définition, dans son terme même, in, non, ne pas, fans, de fari, en latin, parler. L'enfant, à son origine, c'est celui qui ne parle pas. Parvulus pronobis, dont on voit un très émouvant tableau avant d'entrer dans la chapelle, de Monseigneur de Ségur, je crois, ne parle pas. L'enfant de la crèche, il ne parle pas. Est-ce à dire qu'il ne communique pas? Est-ce à dire que l'enfant, venant au monde, ne communique pas? La psychologie contemporaine nous a appris un certain nombre de choses sur les enfants, et il est extrêmement curieux d'ailleurs de constater que, à la fois, cette partie des sciences humaines, qu'est la psychophysiologie du petit enfant, du nouveau-né, du fœtus, nous donne des savoirs que nos ancêtres n'avaient peut-être pas d'une manière aussi scientifique et explicite. Et qu'en même temps, tout en ayant ces savoirs, on assassine à jet continu ces êtres dont on sait qu'ils ont une âme puisqu'ils communiquent. Avant la naissance, la psychologie moderne a établi que les organes d'essence fonctionnent et qu'avant même que les organes d'essence fonctionnent, il y a déjà de premières communications entre l'embryon même et l'organisme maternel. Le lien à la mère est réel, et ce n'est pas seulement le lien senti par la mère avec son enfant, mais c'est un lien qui constitue déjà l'être de l'enfant. Alors, il y a un travail qui a très longuement sur le titre « Attachement et perte », qui a montré que le lien d'attachement est une tendance primaire, c'est-à-dire qui ne provient pas d'une autre, qui est là naturellement. Non pas simplement de la mère à l'égard de l'enfant, mais de l'enfant vers la mère. Et pour donner encore une dernière précision, deux expérimentateurs américains, Condon et Sander, ont fait une étude qui a démontré que le premier jour de sa vie, le nouveau-né a le sens de la parole humaine et distingue la parole humaine de toute autre émission sonore. Le mouvement du nouveau-né est synchronisé avec la parole de l'adulte. La parole de la langue maternelle ou d'une autre langue, d'ailleurs, une parole humaine. Parce que, bien sûr, il ne reconnaît pas s'il est anglais, la langue anglaise, ou s'il est français, la langue française. Mais il est capable de discerner cette production singulière qu'est ce qu'Aristote appelait la phronè, la langue, l'émission linguistique de toute autre émission sonore. Les satisfactions du lien d'attachement, tendance donc de l'enfant, dans la mesure où elles lui sont données d'une manière juste, nous verrons dans un instant que tout caprice n'est pas nécessairement une vraie demande, et les mamans savent distinguer, même chez un petit enfant, des cris qui sont de vrais cris de douleur, de ceux qui sont déjà le commencement du caprice, car ça commence très tôt. Et puis on voit ensuite l'enfant qui grimace de douleur, c'est de la comédie, il n'y a pas une larme. Dans la mesure où on satisfait les demandes justes du lien d'attachement, de cette tendance de l'enfant, dans cette mesure, on lui permettra plus tard d'être de plus en plus autonome. L'autonomie d'un être humain n'est pas formée par cette espèce d'abandon qui consisterait à dire « on va mettre les enfants au milieu des autres, allez, à la crèche, la société, ça leur fera du bien » et tout, et multipliant les mères, il y aura une mère, une autre, une nourrice, etc. Non, car ce n'est pas ça que l'enfant demande. La demande naturelle de l'enfant, c'est sa maman et son papa, sous des formes différentes, bien sûr. Le rôle du père n'est pas celui de la mère. Et c'est dans la mesure où ces demandes sont satisfaites d'une manière juste, encore une fois, que plus tard, l'enfant sera capable d'être autonome et que le jeune homme sera capable de se prendre en charge et que l'adulte pourra, dans une certaine mesure, étant jamais adulte, accéder à certains courages. Cette idée avait été vaguement aperçue par Freud, mais avec toute son idéologie permissive, pansexualiste, il a troublé tous ces quelques aperçus qu'il pouvait avoir. Il n'y a jamais certainement dans une doctrine que de l'erreur. Mais malheureusement, chez Freud. Les quelques fragments de vérité qui s'y trouvent sont malheureusement peu exploitables. Petit C, la vie de la famille. La vie de la famille s'établit, c'est toujours mon premier point, dans ce lien du couple, des parents aux enfants et horizontalement des enfants entre eux. Car il y a ensuite, peu à peu, un développement des communications entre les enfants. Eh bien, ces relations forment le premier niveau de ce qu'Aristote appelait la philia, c'est-à-dire le lien entre les hommes. On traduit philia par amitié, mais c'est à prendre en un sens extrêmement fondamental. C'est pas l'amitié sélective, on a quelques amis. Non, c'est le lien spontané, universel, d'homme à homme, d'être humain à être humain. Et ce lien s'établit d'abord, dit la politique d'Aristote, dans le couple, dans la famille. Il s'établit, et cela la psychologie moderne l'a retrouvé, précisément avec l'attachement. Le lien d'attachement de Bowlby, c'est un autre nom de la philia d'Aristote. On n'a rien inventé. On a à peine retrouvé ce que ce grand génie avait longuement décrit, et puis ce lien des enfants entre eux. Par conséquent, nous pouvons comprendre cette affirmation aristotélicienne que l'être humain est un animal politique, un zoon politikon, un animal social, avant même de s'intégrer à la vie de la cité, dès sa vie familiale. Et que, par conséquent, la famille est le moyen nécessaire pour parvenir à la vie de la cité. Auguste Comte, c'est une des quelques idées justes qu'on trouve chez ce penseur positiviste, a dit que la famille est la cellule de base de la société, c'est la cellule fondamentale de la vie sociale. D'ailleurs, Aristote n'a pas simplement dit que l'être humain est un zoon politikon, un animal politique. Et, dit-il, il est animal conjugal avant et même plus à être animal politique. C'est un des attributs. Je ne dirais pas définition, car définir l'essence humaine, c'est extrêmement difficile. Mais c'est en tout cas un des attributs essentiels de l'homme, animal conjugal, animal familial. Et dans l'éthique à Eudème, alors ça, animal sunduastikon, c'est dans l'éthique à Nicomaque au livre 8. Dans l'éthique à Eudème, il dit, livre 7, chapitre 10, c'est un animal, un zoon, oikonomikon. Oikonomikon, ça ne veut pas dire dans la vie économique de la cité, mais dans la vie de la famille. C'est la famille qui forme cette oikos, là, cette cellule de base. Alors la famille, évidemment, avec ses possessions, qui était une famille dans laquelle résidaient des familiers qu'on dit avoir été des esclaves, enfin, là, les situations étaient différentes, et les enfants, et puis toute une parentèle, évidemment. Vie familiale. L'être humain est donc un animal de vie familiale. Et dit-il encore dans l'éthique à Eudème, c'est un zoon koinonikon, c'est-à-dire communautaire, de vie communautaire, qui met quelque chose en commun. Ce n'est pas simplement cet attribut un peu abstrait qui est l'appartenance à la police, à la cité, mais c'est le fait d'aller ensemble vers quelque chose de commun, que l'on partage. Et ce qu'on partage d'abord, c'est évidemment la vie familiale, les coutumes familiales, les traditions qui peu à peu s'établissent dans la famille, les biens de la famille qu'on reçoit des ancêtres, qu'on transmet, biens matériels, biens spirituels, l'éducation, le catéchisme, enfin tout ce que la famille nous transmet. Et quelquefois, ça saute une génération, c'est les grands-parents qui, à travers la défaillance des parents, transmettent aux petits-enfants les biens communs de la famille. Mon premier point, les communications dans la famille et ce qu'est effectivement, dans les descriptions de la psychologie contemporaine, et pour nous qui avons la chance d'être éclairés par les vérités de la révélation et qui pouvons compléter ce qu'ont d'insuffisant ces descriptions et ces analyses contemporaines, voilà ce qu'est en gros cette mise en commun, ces communications dans la famille, ce qu'elles sont normalement. Nous avons là donc une norme que l'on constate d'ailleurs dans beaucoup de nos familles, fort heureusement, de la vie communautaire de la famille. Deuxième point, les communications à l'école, au travail, dans la cité. À l'école, dans le travail, dans la cité. À l'école d'abord, parce que si l'enfant commence par la famille, très vite, il passe à l'école. Et tous ces groupes, depuis l'école jusqu'à la cité, en passant par tous les groupes, par toutes les communautés intermédiaires, travaillent, et tout le reste, hein, les groupes sportifs, la paroisse, enfin, etc. Tous ces groupes fonctionnent selon un principe autre que la famille. Le principe sur lequel repose la famille, qui lui permet de fonctionner, c'est l'amour. Les parents s'aiment, les époux s'aiment, bien sûr, ils aiment leurs enfants, ils les mettent au monde, ils sont pro-créateurs, c'est-à-dire associés par Dieu à cette création qu'est un être humain, et ils les aiment avant qu'en retour, ces enfants eux-mêmes arrivent à aimer leurs parents. Car le lien d'attachement, dans sa tendance, dans sa forme première, n'est pas encore évidemment un amour. C'est une tendance naturelle qui va peu à peu pouvoir se développer jusqu'à l'amour, mais qui n'en est pas encore là. Il n'empêche que c'est sur ce terrain-là que se constituent ces relations qui sont des relations aimantes. Entre frères et sœurs, quels que soient les conflits, les jalousies, qui sont des phases inévitables du développement des enfants dans leur rapport les uns par rapport aux autres, quels que soient tous ces incidents, voire accidents, l'amour reste toujours la base, l'amour fraternel. On dit à un ami que vraiment on chérit particulièrement, qu'on l'aime comme un frère. À l'école, quand on va au patronage, quand on va travailler, quand on est au lycée, à l'université, même à l'Institut universitaire Saint-Pédis, si aimant soit-il, quand on est dans la vie de la cité, le mode de fonctionnement n'est plus l'amour, le principe du fonctionnement, la pierre de touche du fonctionnement n'est plus l'amour, même si j'aime mes étudiants, et j'espère que je les aime, d'un point de vue surnaturel, mon rapport à eux est un rapport de justice. L'école fonctionne selon le principe de la justice. Un enfant, il y a quelque chose qu'un enfant, dont un enfant souffre, qu'il ne peut pas tolérer, qui va être la condamnation du maître ou du professeur, s'il le constate, c'est la préférence, c'est-à-dire la justice, comme devant être juste. Il est, le maître, le professeur, soumis au droit. Le droit, c'est ce qui est juste, c'est ce qui objectivement est juste. On me remet une copie, quel que soit mon sentiment à l'égard de l'étudiant, c'est cette note qu'elle mérite. Ça va me fendre le cœur, ou au contraire, je vais être révolté en disant quand même, il fait une si bonne copie alors qu'il travaille si peu. Règle donc, dit Aristote, nos rapports avec autrui. La justice est rapport à l'autre en tant que tel. Pros heteron, ad alterum, par rapport à l'autre. C'est ça la justice. Et le droit, c'est l'égalité ou la proportion, selon les cas, dans ces rapports entre les êtres, les uns par rapport aux autres. Et Aristote, commenté par saint Thomas, montre que cette justice, ensemble des droits, car l'ensemble des droits, c'est la justice et pas autre chose, règle les communications entre les hommes. Le juste, justum, todikaion, c'est ce qui est conforme à la loi. Et donc ce qui respecte l'égalité. Ce n'est pas un individu possédant des droits. Je suis soumis aux droits, ce qui est tout autre. Bon. Laissons le monde moderne patauger dans cette idée des droits de l'individu. Ce qui d'ailleurs produit les pires tyrannies, comme on le voit à tout moment. Petit A, l'école. L'école, c'est de mon second point, le petit A. L'école est le commencement de cette vie politique. Donc je vous disais, le maître doit être juste, il est une autorité de type juridique, le maître doit être compétent, on ne demande pas au père ou à la mère d'avoir une compétence particulière. Il faut qu'ils aiment, Et il y a de pauvres gens qui n'ont pas beaucoup de compétences intellectuelles. Et saint Paul disait d'ailleurs à ses Corinthiens, « Beaucoup de pauvres gens parmi vous, hein, vous n'êtes pas très brillants. » C'est de bons parents quand même. Tandis que pour être maître ou professeur, il faut avoir une compétence. On est maître d'une manière juste que si on a acquis ses compétences. Si on sait ce que l'on va enseigner. Exercition, et c'est nécessaire, puisqu'il est dans une société qui est réglée par la justice, donc par des lois, donc il faut obéir à ces lois, et le droit exige que chacun se soumette à ces lois, que chacun soit dans le droit chemin, comme on dit, et ce pouvoir de coercition, ce ne sera pas simplement abstrait, attention, tenez-vous bien, hein, non, il doit être marqué par des sanctions. Il ne s'agit pas, quand il y a des gens bruyants dans la rue, de leur dire « allez crier un peu plus loin ». Non, il s'agit de les empêcher de crier, quel que soit le moyen qu'on emploie, jusqu'à ce qu'il soit proportionné, bien sûr, à la nuisance, jusqu'à ce que cette nuisance disparaisse. Pouvoir de coercition, sanctions, et les sanctions à l'école sont des sanctions à portée sociale. On met des notes, il y a un classement, on fera redoubler, maintenant paraît qu'il ne fera plus redoubler, qui suffira, je ne sais pas quoi, pour être dans les 80% de bacheliers. Pourquoi 80% d'ailleurs, hein? Qu'est-ce que ce sera que les 20% qu'on va mettre à côté? Bon, enfin bref, passons. Vous savez, en 1968, on a décerné à l'université de Nanterre une licence à un cheval. Un gars avait inscrit son cheval et il l'a vu sur la liste. Bon, passons. Bon, mais là, selon le droit, il faut qu'il y ait des sanctions. Ces sanctions sont sociales, c'est-à-dire qu'elles sont établies par des règles qui s'imposent à tous, auxquelles tous sont soumis, et auquel n'importe qui, fût-ce le plus brillant des élèves, peut se trouver un jour confronté. J'ai vu, en 1939, la première du concours général à la philosophie échouer au bac. On a demandé sa copie, l'échec était justifié. Un accident peut arriver. Bon, c'est un exemple, c'est une anecdote. Bien sûr, elle a reparti en septembre, elle a tiré ceux qui m'ont très bien, etc. Bon, cela dit, vous voyez, les règles, on ne doit pas faire une entorse en disant « Ah, il est capable de mieux ». Non, non, non. Il est capable de mieux, je le mets sur la copie, mais la note est là. Et l'échec à l'examen, ou le redoublement, ou l'appréciation sévère sur le livret scolaire, sont les sanctions sociales nécessaires et justes. Du point de vue des camarades, ça fonctionne aussi selon la justice. Les camarades ne sont pas des frères. Et ils ne font pas de cadeaux. Camarades, je laisse de côté les mauvais camarades, laissons de côté tout le monde obscur, un peu diabolique, de ceux qui sont méchants, qui se plaisent. Prenons les camarades tout venant et braves garçons, et qui sont bien éduqués et tout. Il n'empêche qu'ils vous feront remarquer, ils feront remarquer à l'enfant son ridicule, ils lui feront remarquer son échec, ils appuieront lourdement, toute la classe va s'esclaffer parce qu'un pauvre garçon a commis une bévue, et ma foi, c'est une forme de sanction. Le ridicule, c'est une sanction pénible, quelquefois injustifiée, mais quelquefois elle ne fait pas de mal. C'est donc un monde, ce monde des camarades, parallèle à celui de la classe. Le monde de la classe en tant que tel est centré autour du maître, avec ses lois justes, comme je vous le disais. Le monde des camarades, il est horizontal, il a ses réseaux, il a ses lois. Il y a des lois très générales, contre la délation, il y a des trahisons qu'on n'accepte pas, il y a des vacheries, pardonnez-moi le mot, qui ne doivent pas se faire, etc. Et puis, il y a des codes particuliers à telle classe, à telle promotion, qui marquent cette collectivité. Et ce monde qui est parallèle, qui vit, qui a son mode d'exercer ses droits, est nécessaire au développement de la volonté de l'enfant. Car c'est là qu'il commence à se heurter aux obstacles sociaux qu'il rencontrera plus tard et qui seront beaucoup plus durs. Car dans une société normalement constituée, dans une société qui cherche à fonctionner pour le bien commun du groupe, on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Et quelqu'un qui n'est pas capable de faire son travail, il est renvoyé. Et alors ça, c'est dur à encaisser. Tandis que les camarades, c'est rare que ça aille jusqu'à l'exclusion de la classe. Il faut vraiment faire des sottises ou bien avoir un comportement particulièrement odieux pour se faire exclure. Bien sûr, le secours et le recours parental sont fort heureusement toujours là pour aider l'enfant à supporter toutes ses blessures, ses avanies, toutes ses frustrations, toutes ses punitions, tout ce côté pénible, sacrifiant, qui est en même temps purifiant, que l'école, et les camarades en particulier, lui infligent. Et en effet, les parents sont là, d'une part, et d'autre part, famille et école doivent, d'une manière générale et instituée, communiquer. Dans notre ère de confusion générale, on croit que mélanger les rôles, faire que les parents soient là dans l'école, les bricoles, face ci, face ça, que l'école soit une espèce de grande famille où tout est permis, où on s'amuse bien, où on est bien ensemble, que c'est cela la communication famille-école. Pas du tout. Ce n'est pas la communication. C'est la disparition de la communication. La confusion, ce n'est pas la communication. Babel, confusion, ça ne communique plus. C'est fini. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, assez souvent, quand il y a des rapports entre école et famille, c'est que les rôles disparaissent. De même que le rôle masculin, le rôle féminin, le rôle paternel, le rôle maternel ont tendance à être fondus dans un espèce de vague rôle humain, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, unisexe en quelque sorte. Eh bien, de même, famille et école finissent par tomber dans un chaos. Ça n'est pas cela. Chacun de ces deux groupes doit rester dans son rôle. La famille doit pouvoir demander des comptes à l'école. Elle doit pouvoir être reçue par les autorités de l'école, par le maître. Elle doit pouvoir exprimer certaines revendications qui tiennent à son rôle de famille, c'est-à-dire à son rôle éducatif, qui est irremplaçable. Les enfants n'appartiennent pas plus à la famille qu'à l'école. Quand on dit les enfants appartiennent à la famille, c'est une façon de parler un peu fâcheuse, car l'enfant appartient à Dieu, qu'il confie à la famille. Bon, la famille est le premier groupe, comme je vous l'ai montré, d'accueil de l'enfant, mais il ne possède pas l'enfant. Et la famille, le couple qui croirait posséder un enfant, ferait complètement fausse route. Mais enfin, il n'empêche que c'est la base, c'est le soutien le plus permanent et le plus constituant pour l'enfant. Chacun doit rester donc, famille et école, dans son rôle. L'école doit pouvoir convoquer les parents, exiger qu'ils viennent pour expliquer que quelque chose dans le comportement de l'enfant ne va pas, ou qu'il a cassé des vitres ou fait je ne sais quelle bêtise, et que les parents doivent venir réparer. Il y a donc un certain nombre de rapports qui doivent être bien nets, bien institués. Certains établissements, d'ailleurs, je me souviens d'un établissement dans lequel on nous avait fait signer un espèce d'engagement où il y avait article 1, article 2, article 3, où l'enfant signait, les parents signaient, et où c'était la charte, en quelque sorte, de l'acceptation de l'appartenance de cette famille et de chacun des enfants à cette école. Malheureusement, dans les faits, ça n'a pas du tout fonctionné. Enfin, en tout cas, il y avait déjà une petite intention. L'école ne doit pas s'emparer de l'enfant, bien sûr, ne doit pas se substituer à la famille. D'ailleurs, si l'école prétendait le faire, elle le ferait comme relais de l'État. Quand on dit que c'est l'école qui est le creuset de la nation, c'est l'école qui doit unifier tout, c'est à l'école que l'éducation commune doit se faire, etc. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là qu'il faut conditionner tous les enfants à être un certain type de, je n'ose pas dire citoyen, parce qu'il y a dans l'idée de citoyen une responsabilité, une appartenance libre et un engagement à l'égard de la cité, mais de sujet assujetti à cet État et conditionné par cet État, le petit octobre, comme en URSS en quelque sorte. L'école ne doit donc pas se substituer à la famille, puisque si elle le faisait, elle serait la courroie de transmission de l'État totalitaire, et nous sommes dans un État totalitaire, bien entendu, dans la mesure où l'école s'empare des enfants, et c'est un État totalitaire chloroformant, qui nous endort, mais qui n'en est pas moins totalitaire. La famille ne doit pas introduire ses principes dans la vie scolaire. Les deux autorités sont distinctes. Le maître, de par sa compétence, instruit. Il transmet des savoirs C'est tout un problème. Hein. Et les des magistraux de saint Thomas, après suite saint Augustin, ont montré que nous n'avons qu'un maître, le Christ, et que le maître, professeur, l'instituteur, etc., n'est là que pour émettre des signes qui vont éveiller dans l'esprit de des enfants ou des auditeurs l'intelligence qui va se tourner vers cette vérité qu'est le Seigneur. Mais il n'empêche que s'il n'est pas compétent, il sera incapable d'émettre ces signes, ce langage, qui permettront à l'esprit de faire ce chemin, puisqu'il ne l'a pas pu, il n'a pas pu le faire tout seul, cet esprit. D'ailleurs, quel esprit aurait pu inventer, dans le court délai que nous avons à vivre, toutes les sciences, toute la poésie, toute la musique, toute la philosophie qui peuvent nous être proposées. Le maître instruit, les parents éduquent. Les parents forment l'affectivité de l'enfant, forment son sens du respect, de la pudeur. L'école ne doit pas aller contre, bien entendu. Forme son sens moral profond, sa sincérité, son courage. Et les deux, école et famille, doivent évidemment converger vers ce but qu'est donner à ces êtres qui sont là les moyens de développer humainement leurs facultés. Ce qui n'est pas si facile que ça, surtout étant donné que nous sommes dans un état, je ne parle pas de l'état civil, hein, mais l'état historique général de l'humanité, je parle maintenant. Nous sommes dans un état tel que le développement harmonieux de nos facultés, les sens sous la raison sous Dieu, ne va pas tout seul. Le monde du travail, après celui de l'école, c'est le petit b de mon deuxième main dans cette nouvelle sphère, qui est également marquée par la justice, la verticalité de l'autorité est encore plus accentuée. Une école, c'est autour d'un maître, d'un professeur, d'un directeur, d'un recteur, donc il y a une autorité, je suis soumis au recteur, je dois être soumis au recteur, les étudiants doivent être soumis au professeur et au recteur, il ne doit pas y avoir de conflit entre un professeur et son recteur, c'est impensable, moi-même j'ai été chef d'établissement, et c'est pourquoi je suis, j'espère, devenu presque par nature, ou tout au moins par seconde nature, obéissant à mon recteur. Mais dans la sphère du travail déjà qui s'esquisse, vous voyez, pour moi, professeur, dans cet établissement. Mais d'une manière générale, dans le monde du travail et dans le monde de la vie politique, cette verticalité de l'autorité, quelle que soit la douceur et le sourire de l'autorité, cette verticalité est encore plus accusée. Et si ça n'est pas explicitement et régulièrement exprimé, c'est-à-dire par les lois, cela sera réalisé insidieusement. Dès lors que l'on cesse de poser l'autorité comme descendante, parce qu'elle vient de Dieu, évidemment, et qu'elle s'exerce par des lois, par de justes lois, bien entendu, comme dit Aristote, dès lors qu'on cesse de poser ces deux axiomes, ce n'est pas du tout que l'autorité disparaisse. C'est que l'autorité se masque, devient insidieuse et qu'on a affaire au tyran. Nous avons, exemple romanesque, le meilleur des mondes d'Huxley, 1984, dont je parlais tout à l'heure, de George Orwell, qui avait connu le paradis communiste dans les années 50 et qui l'avait bien dénoncé. Je ne parle pas d'éventuels Florentins, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les communications dans un tel système sont alors toutes faussées. C'est ça la langue de bois. On dit une chose, en apparence, on vous dit, français, vous allez vous épanouir, français, on vous écoute, français parler. Pourquoi je dis français, au fait? Non, bref, enfin, n'importe qui, quoi. Et puis, en fait, on n'écoute rien du tout. Vous vous exprimez. Bon, ça vous fait du bien, probablement. Puis après, j'aurai la paix. Ce sont donc de pseudo-communications. Et ce qui va descendre sous une apparence soporifique, avec à l'appui tous les petits plaisirs du jour et de la nuit que vous distillent les petits écrans, ça va être un conditionnement inaperçu. Un conditionnement dont on finit par ne plus avoir idée à un certain nombre d'attitudes qui se prennent automatiquement. Attitudes à l'égard de ce qu'on prétend être la culture. On colle comment dire, des espèces d'objets culturels, je ne sais pas ce que c'est au juste, visuels, auditifs, etc. Et ça finit par faire plaisir à des masses d'êtres qui, au fond d'eux-mêmes, sainement, dans leur constitution humaine, répugnent à cela, et qui finissent par ne plus s'en rendre compte. Regardez le métro, regardez les agitations diverses que nous montrent les écrans. Comment un être humain est-il satisfait? Je ne dirais pas par cette animalité, parce que dans les animaux, il y a quelque chose qui reste naturel, qui reste conforme à leur nature. Mais par cet excès de sauvagerie et de disparition de contrôle et d'harmonie, par cette disharmonie. Alors après, bon, il y aura la drogue, il y aura tout le reste qui s'ensuit. Pseudo-communication qui, donc, vont laisser passer des ordres subliminaux ou autres qui vont entraîner les gens à... Là, voilà bien la langue de bois, hein. Dans un dialogue de sourds, cette fois. On présente un visage masqué et plus personne ne sait où est le responsable. Vous allez quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été. On vous a frustré, on s'est trompé dans votre compte, etc. Vous éprouverez les plus grandes peines du monde à savoir où... Vous voyez bien qu'il y a une erreur, hein. Mais qui est responsable et comment faire réparer l'erreur? Quelle démarche entreprendre? Alors ça, c'est un travail terrible. Ah ben, c'est l'ordinateur. Ah oui, voilà. C'est l'ordinateur. Moi, je n'y peux rien. J'ai une fille qui n'avait pas reçu sa feuille d'impôt pendant des années. Elle avait envoyé sa déclaration. Elle ne recevait pas sa feuille d'impôt. Elle s'inquiétait en disant, qu'est-ce qui va m'arriver un de ces jours, hein? Alors, elle est allée voir son inspecteur, son contrôleur des contributions, centre des impôts. Ah, c'est l'ordinateur. Je n'y peux rien. On a envoyé des informations, mais l'ordinateur. Une fois, nous avions vendu quelques restes de terrain que nous avions, et on continuait à nous envoyer les taxes foncières. Ah, que voulez-vous, c'est l'ordinateur. Bon, on ne trouve plus, il n'y a plus de responsables. Ça ne communique plus. Ce sont des espèces de machines qui tournent. Alors moi, je crois que les ordinateurs ont bon dos dans cette histoire-là. Et qu'il y a bien toujours quelqu'un qui, quelque part, profite de toutes ces soi-disant bévues de l'ordinateur. Le responsable, donc, se dérobe. Alors, les échanges dans cette vie politique moderne, les échanges ne peuvent plus se faire vraiment. La loi ne peut plus s'appliquer, puisque les réalités qui doivent se soumettre à la loi sont distordues par soit des personnes, soit des machines, je ne sais pas, qui les appréhendent, les font autres que ce qu'elles sont vraiment, et puis ensuite vous les resservent. Alors, on cherche vainement, d'abord les lois ne sont pas toujours très justes, hein, bon, mais même à supposer qu'elles le soient, et quand elles le sont, on cherche vainement comment le droit pourrait être respecté. Je ne dis pas comment faire valoir mes droits, il ne s'agit pas de mes droits, car c'est la justice qui exige que, soit à l'égard de mon patrimoine familial, soit à l'égard de mon travail, il n'y a plus d'échange vrai. Il y a une apparence de transfert, oui, c'est un peu comme le transfert psychanalytique, hein. C'est encore une drôle d'apparence de transfert, ça aussi. Là, bon, transfert de biens, transfert de services... Mais un des partenaires, au moins, est trompé. Et à ce moment-là, il ne le sait pas. Or, saint Thomas, commentant Aristote, Éthique Nicomaque, livre 7, de la justice, c'est le traité du droit, diverses formes. Saint Thomas commente Aristote, dans le commentaire de l'Éthique à Nicomaque. Je vous donne le numéro de ce que je vais vous dire maintenant. 988 du commentaire d'Aristote. Oui, c'est précis. Hein. Je vous dois la précision. Vous avez droit à la précision. Il a montré, notre cher saint Thomas, qui va plus loin qu'Aristote, ici comme sur beaucoup d'autres points. Aristote est très limité. C'est un génie, hein, mais c'est un génie humain. Saint Thomas, il a la révélation en plus, alors ça ne se compare plus. Et même sur la nature, même sur la raison, même sur la philosophie, la grâce illumine. Si nous ne sommes pas là pour le dire, qui le dira? Et c'est pourtant la vérité. Et pourquoi saint Thomas est-il le sommet de la philosophie? C'est pas parce qu'il est Thomas d'Aquin, c'est parce qu'il est saint. Et c'est tout. C'est-à-dire parce qu'il a la grâce. Eh bien, saint Thomas a montré que la commensuration, la mise en commun d'une mesure juste, commensuration, il y a toujours cette idée de quelque chose de commun. Dans les échanges, dans la vie sociale, il y a une mensuration qui doit être commune, qui doit être établie justement. Mesure juste des biens, des services échangés. Est nécessaire, cette commensuration, pour qu'il y ait commutation, encore quelque chose de commun, vous voyez, commutation, c'est-à-dire échange, passage de l'un à l'autre, échange réel, échange de biens, je vends ma maison, bon, ou de services, je vends mes cours, je vends ce que je fais, d'une manière ou d'une autre, le troc, la vente, l'achat, un service que je rends et qui m'est rendu en échange, etc. Pour qu'il y ait donc commutation, échange humain, échange juste, il faut qu'il y ait commensuration, c'est-à-dire loi mesurant d'une manière commune les biens, services échangés. Et cette commutation, c'est toujours 988 du commentaire de l'éthique à Nicomaque de saint Thomas, cette commutation est la base sociale de la communication. C'est-à-dire, il n'y aura pas de communication réelle, humaine, si cela ne s'accompagne pas de commutationes. L'homme vit de pain, pas seulement, mais il vit aussi de pain. Il vit de services rendus. Et pour qu'il y ait commutation, il faut commensuration. Donc, nous avons toujours cette racine de la mise en commun, du commun. Le commun, vous voyez, non pas moi ce que je désire, moi ce que je ressens, moi ce que j'exprime, mais le commun, là, qui est devant nous, nous, vous et moi, qui n'est pas plus à moi qu'à vous, et que je ne peux jamais prétendre posséder. Et la vie, il se donne à nous. Mais ça ne signifie pas que je le possède, au sens où on possède quelque chose. Donc, ce commun, ça n'est pas non plus une chose, voyez. C'est une réalité humaine, en dehors de nous, qui se communique à nous, qui est spirituelle, qui peut être vivante, qui peut même être divine, mais qui n'est pas mon désir, qui n'est pas mon œuvre, à laquelle je suis soumis, et vers laquelle je dois aller. Eh bien, c'est tout cela qui se trouve derrière les communicationes de la vie sociale pour qu'elles soient humaines et qu'elles soient ce qu'elles, donc qu'elles soient ce qu'elles doivent être. Pour qu'elles soient justes, le juste, c'est la réciprocité et il va assurer ainsi la cohésion sociale. Quelques mots sur la pathologie de la communication maintenant. C'est mon troisième point. Alors, je vous ai dit, l'homme est zoon politikon, animal politique. Aristote dit logon ekon, ayant la parole. Et d'ailleurs, il est le seul animal à avoir la parole. Et cette aptitude qu'il a à parler, c'est-à-dire à exprimer des idées, à exprimer des réalités intelligibles, qui le fait d'une espèce tout autre que les autres animaux, cette aptitude, zoon logon ekon, est la manifestation, et on oserait presque dire le centre de zoon synduastikon, animal conjugal. Il faut bien que je dise à ma femme que je l'aime, et à mes enfants d'une manière ou de l'autre aussi, il faut bien que je le dise, de zoon politikon, car il faut bien parler pour qu'il y ait une vie sociale. Il faut parler, maintenant nous écrivons. Nos ancêtres très lointains de la préhistoire n'écrivaient pas. Mais enfin, ils parlaient, ils avaient un langage. En quoi ils sont nos frères? Et zoon logikon, animal raisonnable. Car la raison chez l'homme, à la différence de ce qu'elle est chez l'ange, ou a fortiori chez Dieu, n'est pas une intuition pure, acte immédiat de saisie de la vérité. Non, nous n'avons pas cela. Certains idéalistes le prétendent, mais ils sont complètement fous. La raison, c'est raisonner, et puis quelquefois, au terme du raisonnement, arriver à avoir une vue évidente qu'on aboutit à quelque chose de vrai. Il n'y a pas de vie humaine, donc, sans communication. Même chez les bienheureux, saint Thomas nous parle de temps en temps des Béatis, de la Jérusalem céleste, etc., il y a communication. Il ne parle pas du Beatus qui est là tout seul dans son coin. Non, non. Beati. Societas Beatorum. C'est l'Église, bien entendu. L'Église triomphante. L'absence de communication rend impossible une existence humaine. Question grave. Que les troubles de la communication soient des atteintes graves à la réalisation de la personnalité humaine. Ces troubles, ces ruptures de communication existent. Outre dialogue de sourds et langue de bois, solitude, il y a des affections, des pathologies, telles que, par exemple, le mutisme involontaire, le mutisme pathologique, le mutisme irrésistible, ou l'incapacité à faire autrement que d'interpréter ce qu'on entend, sans aller forcément jusqu'au délire d'interprétation. Voyons les catégories principales de ces pathologies. Alors, je verrai 4 points, et puis un 5e qui prétend être une thérapie de certaines pathologies. Petit A, tout ce qui est de l'ordre du mutisme, des atteintes schizoïdes, des schizophrénies, etc. Solitude, fermeture, incapacité de s'exprimer vraiment, c'est-à-dire en ayant l'impression que l'autre m'écoute, et incapacité d'écouter l'autre. Il n'y a pas d'atteinte des organes. Il peut y avoir des pathologies assez sévères. Il y a rupture, fermeture de la communication. À la suite de quels accidents? C'est assez variable. Je signale seulement, parce que là, il faudrait vraiment toute une conférence pour en parler, mais je veux signaler un premier point, c'est que sur ces pathologies, la psychanalyse est et se reconnaît impuissante. Certains arrivent à en sortir, qu'on peut en sortir, mais ce n'est qu'avec des soins aimants, attentifs, respectueux, patients, c'est-à-dire le don de soi. Et il y a des institutions, vous le savez, qui parviennent à certains résultats et qui parviennent à rétablir certaines formes de communication et à écouter celui qui croit qu'on ne l'écoute pas, qui croit qu'il est fermé en lui-même. Simone Veil, la philosophe, celle qui est dans la science. Ne confondons pas une philosophe de vie avec... Simone Veil, qui a été baptisée d'ailleurs avant de mourir, disait dans une conférence célèbre sur l'attention que ce qui est le plus important, il faut développer son attention, sa puissance d'attention. Pourquoi ? Pour être capable de faire attention à son prochain. Et pourquoi faire attention à son prochain ? Parce que c'est quelquefois la seule façon d'arriver à lui prouver qu'on l'aime. D'ailleurs, de toute façon, forme de pathologie ou non, si on ne fait pas attention à autrui, c'est bien qu'on ne l'aime pas. C'est donc une première forme, je la signale seulement en passant, je ne peux pas m'apesantir davantage, mais je vous donne une piste et des voies qui existent pour en sortir. B, Petit B, toujours dans ce troisième mandat de la pathologie, il y a aussi des incapacités qui sont inscrites dans le corps, qui sont d'ordre physiologique. Par exemple, des handicaps mentaux profonds. Par exemple, la célèbre trisomie 21, les Mongoliens. Grosse épreuve, évidemment, pour les parents. Nous avons un couple ami qui a un enfant dans ce cas, et qui depuis, bon, cet enfant a plus de 30 ans maintenant, depuis le temps, parvient admirablement à communiquer avec cet enfant, à lui faire faire des œuvres d'art, à lui permettre de, non pas simplement de s'exprimer comme ça, là, pour se défouler et se faire plaisir, mais rencontrer d'autres, parler avec d'autres. C'est donc possible. Car, quelle que soit la gravité, la sévérité du handicap, dès lors que c'est un être humain, c'est-à-dire dès lors qu'il lui reste la base minimale, physiologique et psychologique, qu'il voit, ce qu'il entend, même s'il n'arrive pas à lire l'heure ou des choses comme ça, des choses qui sont hautement abstraites, bien que nous ayons fini par l'oublier, qu'il ne puisse pas arriver à lire, bon, mettons. Dès lors qu'il y a cette base, une forme simple de communication reste possible. Ah, vous me direz, oui, mais c'est ça, vous allez vous contenter de cela. Eh bien, c'est peut-être là qu'il faut renverser cette remarque et dire que cette forme simple, si nous l'exploitons bien, peut-être sera-t-elle débarrassée de beaucoup d'accessoires et peut-être pourra-t-elle aller à l'essentiel. Un essentiel qui ne sera pas dans des systèmes philosophico-théologiques très raffinés. Mais n'oubliez pas saint Thomas d'Aquin, encore une fois, dans son commentaire du Credo, disant « La Vétula, la vieille femme, ignorante, là, qui est là en prière, dans sa prière, cite, S-C-I-T, elle en sait, il dit pas elle sent, hein, elle en sait plus que le plus grand philosophe païen, qu'Aristote ou autre, que l'essentiel de ce que nous avons à savoir, ça tient finalement en peu de formules. Lorsque Saint Pidis, l'idée me vient à l'esprit, reçoit cette Anglaise avec son petit garçon, et que Saint Pidis interroge cet enfant, « Pourquoi veux-tu communier? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et que cet enfant lui répond, « Vous savez mieux que moi la réponse. » Quelque chose. Excusez-moi, je n'avais pas pensé du tout à cet exemple. Il me vient à l'esprit. L'événement est vrai. Hein. Je ne vous affirme pas la citation. Mais la réponse de cet enfant, qui avait quelque chose comme 5-6 ans, je crois, 6, autour de 6 ans, est telle que Saint Pidis dit à la maman, « Demain matin, vous viendrez avec votre enfant et à ma messe, et je lui donnerai la Sainte Communion. » Il a bien vu ce qui est essentiel, et que cet enfant est allé à l'essentiel. Attention, vu son âge, vu son état. Si vous ou moi, nous nous contentions de ramener notre foi à cette formule, alors que par ailleurs nous avons une immensité de savoir profane, elle serait étouffée, elle serait noyée dans toutes ces choses accessoires. Mais précisément, nous sommes là avec des êtres qui sont débarrassés de l'accessoire. Ces handicapés, ces trisomiques, ces infirmes moteurs cérébraux. Ils sont débarrassés de l'accessoire. Ils ne peuvent pas y arriver. Hein. Eh bien, rien n'empêche, a priori, s'ils ont vraiment une âme humaine, qu'ils reçoivent le message évangélique. Et je vais vous donner un exemple deux mots seulement. Une disciple du professeur Lejeune, Madame Rétoré, a expliqué une fois dans une conférence que, avec une trisomique profondément atteinte, Françoise, elle l'appelle ainsi, elle a réussi à avoir des dialogues et qu'au bout d'un certain nombre de ces entretiens, cette fille lui a fait comprendre la question qui la tourmentait, à savoir, est-ce que dans l'autre vie, j'aurai encore mes trois chromosomes 21, j'aurai encore pareil. Et Madame Rétoré lui a fait comprendre à ce moment-là que pour Dieu, elle est irremplaçable, telle qu'elle est. Et que c'est elle, telle qu'elle est, qui est irremplaçable pour Dieu. Et que par conséquent, c'est ce que nous avons à nous dire, par conséquent, tout être humain, dès lors que c'est un être humain, il a sa destinée d'enfant de Dieu. Et cette destinée, c'est la sienne propre qui va vers quelque chose qui nous est commun, à lui et à moi. Et je serais vraiment stupide, impie, diabolique même peut-être, si je me figurais que moi, je vais en avoir plus, parce que je sais plus de choses. La Vétula de saint Thomas cite, c'est plus que le plus grand philosophe. Et si, dans cet ordre-là, moi je sais quelque chose, c'est parce que, comme pour la Vétula, ça m'a été donné. Donc, si cela t'est donné, vas-tu t'en glorifier. Les handicapés mentaux, donc, dès lors qu'ils sont humains, peuvent arriver vers ce bien commun que nous avons tous. Bon, j'avais prévu de vous dire quelques mots des maladies psychosomatiques. C'était mon petit C de ce troisièmement, mais je m'aperçois que je m'étends un peu. Toute maladie est psychosomatique. Le corps et l'âme communiquent. Alors, comment se font les communications? Est-ce que les fonctions supérieures jouent leur rôle et communiquent effectivement ce qu'elles doivent communiquer? Est-ce que les fonctions inférieures reçoivent ces communications? Telle est la question. Si oui, tout va bien. Nous sommes comme Adam et Ève avant la faute. Commandait au sens et elle obéissait à Dieu. Et puis d'ailleurs, si ces fonctions supérieures jouent bien ce rôle unifiant, elles ne laisseront pas faire n'importe quoi au corps, aux mains, aux bras, à l'alimentation, etc. Il y a un mode de vie, une hygiène de vie, au sens des anciens, c'est-à-dire un mode sain dans la santé de vivre, qui fait que on va avoir ce corps sain, S-A-I-N. Vous connaissez beaucoup mieux que moi quelqu'un qui illustre magnifiquement cette santé du corps et de l'âme, même à 85 ans, et qui a une présence d'esprit absolument admirable. Alors ça tient à beaucoup de choses. Ça tient, bien sûr, à la grâce qui est le centre de tout cela, et puis à la façon de vivre, à la façon de se donner, à la façon de manger, tout. Alors, les maladies psychosomatiques, il y a l'origine, où est-elle, Petit D, chez les personnes âgées, eh bien, les gérontologues ont quand même fait quelques petits travaux. Ils ont établi que les communications chez, au troisième, quatrième âge, sont cause de meilleure vie. De meilleure vie dans la santé même de l'être. Possibilité d'activité, etc. Moi, je me souviens très bien de ma mère, à 90 ans, elle a décidé de déménager par elle-même, comme ça, toc, pour se rapprocher de nous. Et puis à 94 ans, elle avait encore toute sa lucidité, son activité. Bien sûr, ce n'était pas l'activité d'une jeune fille gambadante, mais enfin, elle avait son activité, elle n'a jamais été à notre charge. Dieu l'a dispensé des grandes décrépitudes, c'est très rapidement, elle nous a quittés. Elle avait à l'égard de la vie une attitude d'accueil, d'ouverture, une grande générosité. Jusqu'à la fin, elle a eu énormément d'activité. Bon, je prends cet exemple, excusez-moi, de mettre en avant ainsi quelqu'un qui m'est très cher, bien entendu. Mais c'est pour confirmer sur un point de détail ce que la gérontologie contemporaine a démontré, à savoir que, ou a établi plutôt par toutes sortes d'observations, que les communications permettent aux personnes du grand âge de pouvoir mener des années relativement bonnes et en tout cas fructueuses pour tout le monde. Et c'est dans la mesure où elles sont fructueuses que ces personnes ne sont pas trop malheureuses, sans arriver à la béatitude, bien sûr, qui est réservée dans l'au-delà. Les statistiques ont aussi montré, dit-on, moi je dis ça me console beaucoup, hein, que les intellectuels ont une vie plus longue, moins de maladies, etc., etc., que les manuels ou autres. Bon, alors, c'est très bien. D'où, en tout cas, s'il en est ainsi, le devoir de donner aux personnes des troisième et quatrième âges des moyens de s'instruire. C'est pourquoi l'université du troisième âge, c'est une très bonne idée. Des moyens de connaissance, des moyens d'activité, et en même temps, leur permettre, car il y a tout de même une perte, un amoindrissement de certaines fonctions, faire cela de telle sorte qu'ils voient. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vois un institut qui se dit catholique par là, dans les parages, des choses pour le troisième âge où on leur envoie de la psychanalyse ou des trucs comme ça. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit très bénéfique. Parce que je doute que ces personnes, en tout cas pour moi, qui suis à l'aube, sinon déjà dedans, cet âge, ça me ferait du bien d'entrer dans ces histoires de stade, de sexualité, et tout. Bon. Je ne suis pas sûr que ça me donnerait de grosses satisfactions, ce genre de connaissances. Car les connaissances qu'il faut avoir à ce moment-là, puisque les moyens se rétrécissent, c'est celles qui vont à l'essentiel. Nous allons tous avoir à aller vers ces purifications du grand âge, alors qu'elles se fassent et qu'elles aillent précisément vers ce qui est essentiel, ce qui reste chez ces handicapés dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je voulais vous parler des thérapies systémiques, c'est pas nécessaire, hein. C'était mon petit « et », mais bon, je laisse ça de côté. J'en ai parlé l'an dernier, la plupart du temps c'est une langue de bois, un peu à la manière de Freud, mais gauchisant, permissif, etc. C'est pas nécessairement très fructueux. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'avais prévu de parler de ça, bon, pour faire peut-être une fausse fenêtre. Les pathologies illustrent donc 4 points seulement sur les pathologies, ça suffit. 2 directions opposées. Des fermetures, des coupures, mutisme, schizoïdie, séparation, persévération. Vous savez, tous les phénomènes en écho, écholalie, écopraxie, etc., qui sont finalement de la langue de bois. On dirait à nos gens de langue de bois, vous faites de l'écholalie, ils diraient, ah tiens, j'en suis à l'âge de 3 ans. Si encore ils en étaient à l'âge de 3 ans, ils auraient l'avenir devant eux. Mais là, il est derrière. Bon, et encore. Séparation, donc persévération, processus d'écho, c'est la caverne de Platon. Dans la caverne, c'est l'écho. On dit quelque chose, toc, ça revient. Et l'écho, c'est amoindri la fin de ce qui avait été richement exprimé. La dernière syllabe revient. Première direction. Deuxième direction, des purifications ou des amoindrissements douloureux, éprouvants, mais qui peuvent être salutaires. Il ne s'agit pas d'être masochiste, mais enfin, qui peut dire qu'il n'a pas besoin d'être purifié? Alors, ce qu'on croit être une pathologie irréductible ne l'est pas nécessairement. Ce qui est une diminution due à l'âge des puissances humaines peut être favorable. Alors, je cite un personnage, Jacques Darnoux. La plus grande grâce qui m'a été faite, dit-il 50 ans après, d'être tombé de son avion, d'avoir été brûlé, je ne sais quel degré, d'être resté infirme, incapable de faire quoi que ce soit pendant des années, etc., et diminué à jamais. La plus grande grâce que Dieu m'ait faite, dit-il, c'est cet accident d'avion qui, au bord de la guerre de 14-18, l'a laissé pour mort sur le champ de bataille. Parce que, au lieu de me disperser, de me perdre, de me brûler dans tous les sens, je suis allé à l'essentiel. Solzhenitsyn, récemment, a écrit de très fortes choses. Il y en a là un petit résumé, un petit dossier, dans le dernier numéro du Spectacle du Monde. Je vous en donne quelques passages. « L'insupportable flot actuel d'une information superflue et détaillée ruine notre âme jusqu'à l'indigence. Il y a dans le monde toujours plus de journaux divers. Tous rivalisent pour nous accabler. » Il y a toujours plus de chaînes de télévision qui émettent même de nuit. Comment défendre le droit de nos oreilles au silence, le droit de nos yeux au regard intérieur? L'homme ne doit pas encombrer son âme créée par Dieu avec des ragots, des bavardages, des futilités. Alors, cassons le poste de télévision. Allez! Mon épouse ne va pas être contente. Plotin a dit « L'âme bonne est oublieuse. L'âme bonne est oublieuse. » Parce qu'elle se débarrasse de tous ses superflus. Et qu'elle va vers ce qui est essentiel. Cela commun est commun à tous. D'accord. On la garde pour plus tard, éventuellement. Pourquoi se simplifier? Le premier attribut que saint Thomas reconnaît dans la divinité infinie, parfaite, mystérieuse, incompréhensible, c'est la simplicité. Dieu est infiniment simple. Jésus, regardez sa simplicité divine. Se simplifier. Voilà, se simplifier pour aller vers l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est que cet essentiel? Qu'est-ce que c'est que cette communication essentielle? C'est évidemment la communication verticalissime, c'est-à-dire la communication vers Dieu. Elle s'appelle la prière. Dieu, dit Pascal après saint Thomas d'Aquin, a établi la prière pour nous communiquer la dignité de la causalité surnaturelle. Bien sûr, avec Dieu. Je vous remercie.